Les grands titres de ce jeudi 9 février. Le Parti travailliste refuse de donner son support au projet de loi omnibus du gouvernement sur les services de garde. En France, le canard enchaîné a fait de nouvelles révélations dans l'affaire Pénélope Fillon. Et en Afghanistan, 6 employés du Comité international de la Croix-Rouge ont été tués et 2 manquent à l'appel. On débute le journal chez nous en Australie où l'opposition refuse de supporter un projet de loi du gouvernement qui propose des coupes au paiement de sécurité sociale pour réinvestir l'argent dans les services de garde. Le trésorier de l'opposition, Chris Bowen, a dit à ABC que les travailleurs étaient contre cette mesure qui ne ferait qu'empirer la vie de millions d'Australiens.
You remember they called it a rort, that the fact that some Australian women had negotiated, in some cases through their unions, better workplace conditions and in some cases given up salary increases to get those conditions. They want to take them off. And for the first time, they've now linked changes to things like Newstart and making it much harder to get Newstart to the childcare package for the first time. That hadn't been done before. So we've always said that they shouldn't be linking these cuts to childcare, and now they've linked more cuts to childcare.
Le trésorier de l'opposition, Chris Bowen. Le Parti travailliste accuse le ministre de l'Immigration de tenter de s'inspirer de Donald Trump en voulant modifier le Migration Act. L'un des amendements proposés donnerait le droit au ministre d'imposer des contre-vérifications pour les détenteurs de certains types de visas, visant en particulier certains groupes s'il le jugeait nécessaire. Le gouvernement s'est défendu de vouloir répliquer ce qu'a fait Donald Trump aux États-Unis en interdisant l'entrée au pays de citoyens de 7 pays musulmans. La travailleuse Tania Plibersek s'inquiète qu'il y ait des abus si on donne ses pouvoirs à Peter Dutton.
We are all for sensible oversight of visas. If someone has done something wrong, if they've broken a law, if they've broken the conditions of their visa, get rid of them. No problem. But calling in whole classes of people based on where they came from or their religion, that really does sound like something Donald Trump would like to do.
La députée travailleuse Tania Plibersek. Le gouvernement australien a de nouveau critiqué l'utilisation d'énergie renouvelable en Australie du Sud. 40 000 résidences ont été privées d'électricité hier pour une demi-heure en pleine vague de chaleur. Le premier ministre Malcolm Turnbull a pointé du doigt l'énergie renouvelable comme responsable.
The South Australian Labor government has created a situation where that state, crying out for more investment and more industry, has the most expensive and least reliable electricity in Australia. That's a fact. And of course they want to blame it on everybody else. Well, I suppose they could blame it on the wind because it wasn't blowing yesterday. But you know something? The history is in South Australia, which does have a history of heat waves, is that when they have the biggest heat wave, there's no wind. And when there's no wind, all their windmills are not generating electricity. And they haven't planned for that.
Le premier ministre Malcolm Turnbull. En Australie du Sud, le premier ministre Jay Weatherhill a dit que son gouvernement planifiait d'intervenir sur le marché de l'électricité. Il a blâmé l'organisme national de réglementation pour la panne d'hier et a réaffirmé son support pour l'énergie renouvelable.
It will be intervention which is careful and methodical, realizing that every time you intervene in a market, unless you take over the whole market, there is a consequence for another part of the market. So where it will be thoughtful, methodical policy making, but it will be dramatic and it will change the system and give us reliable, affordable and clean power for South Australians.
Le premier ministre de l'Australie du Sud, Jay Weatherhill. Les Verts affirment que les autorités de la Papouasie-Nouvelle-Guinée s'apprêtent à forcer la déportation d'au moins un demandeur d'asile de Manus Island. Le sénateur Nick McKim a dit que 60 hommes qui se sont fait refuser le statut de réfugié, mais qui attendent leur appel, sont visés. Les officiers se seraient rendus à Manus Island ce matin pour commencer le processus de déportation. Passons à l'international maintenant. En France d'abord, où le canard enchaîné a fait de nouvelles révélations dans l'affaire Pénélope Fillon. En plus d'être soupçonnée d'emploi fictif, l'épouse de François Fillon aurait touché 45 000 euros d'indemnité de licenciement payée par l'Assemblée nationale. Malgré la tourmente, les parlementaires de droite restent derrière leur candidat. Reportage de Pierre Firsion.
Le temps n'est plus aux doutes ni aux pleureuses.
Requinquée par l'intervention de François Fillon lundi, sa garde rapprochée est montée au créneau mercredi pour appeler à la mobilisation. La députée Annie Genevard.
Nous sommes les fantassins de François Fillon. Nous devons aller sur le terrain, nous devons expliquer, nous devons restaurer l'image de notre candidat si c'est nécessaire et surtout expliquer que son action et son programme sont tout entiers tournés vers le redressement de la France.
Mais dans les couloirs de l'Assemblée, l'ambiance n'est pas franchement à la mobilisation et à l'unité derrière l'ancien Premier ministre. Certains élus UDI s'interrogent, les députés de droite rasent les murs. Ça se dégrade, confie au micro un élu des Républicains, en évoquant le climat qui règne au sein du groupe LR. Une de ses collègues, les larmes aux yeux, laisse éclater sa colère. C'est un suicide collectif, peste-t-elle. On est inaudible sur le programme. Moi, je suis dégoûté, écœuré, on se sent pris au piège. Et cette députée LR d'ajouter, en évoquant la défense de François Fillon, de dire que c'est le système, mais non, moi j'ai pas fait ça avec mon mari, s'énerve-t-elle. Bref, malgré les explications de François Fillon, le malaise est toujours là, bien palpable. Le prochain sondage va être étudié à la loupe par tous ces députés, des élus qui, pour certains, n'ont pas encore totalement écarté l'idée d'avoir recours à un plan B.
Pierre Firfion pour Radio France Internationale. Au Royaume-Uni, la première ministre Theresa May a franchi un pas de plus vers la séparation de l'Union européenne. La Chambre basse du Parlement a approuvé le Brexit à 494 votes contre 122. Theresa May doit ensuite obtenir l'accord de la Chambre haute où son parti n'a pas la majorité pour pouvoir commencer à négocier le retrait de l'Union européenne. Les Nations unies ont sonné l'alarme à propos de la famine qui menace le Yémen si la communauté internationale ne se mobilise pas. L'organisation demande 3 milliards de dollars pour de l'aide humanitaire. Des milliers de personnes ont été tuées depuis le début de la guerre au Yémen il y a presque 2 ans. Et selon Stephen O'Brien de l'ONU, des millions de personnes font aujourd'hui face à la famine.
Yemen is one of the most food insecure countries in the world. A staggering 7.3 million people do not know where their next meal is coming from. If there is no immediate action, and despite the ongoing humanitarian efforts, famine is now a real possibility for 2017. Malnutrition is rife and is rising at an alarming rate.
Stephen O'Brien, envoyé spécial de l'ONU au Yémen. Aux États-Unis, le président Donald Trump a de nouveau défendu son interdiction d'entrée pour les citoyens de 7 pays à majorité musulmane. Il a dit que la décision de la Cour de stopper temporairement l'interdiction était politique. À Washington, Anne-Marie Capomaccio.
Donald Trump recevait ce matin des shérifs à la Maison-Blanche, une réunion pour les assurer de son soutien, mais qui a commencé par 10 minutes de monologue au cours desquels le président des États-Unis s'est attaqué au juge de Californie. Après avoir lu un résumé de son décret, Donald Trump a commenté l'audition qu'il a écoutée sur les réseaux sociaux.
Je ne veux pas dire que la Cour est biaisée, je ne le dis pas. Nous n'avons pas encore la décision, mais la justice semble si politisée. Ce serait tellement bien si cette justice était capable de lire un document et de faire ce qui est juste. Il s'agit de la sécurité de notre pays, c'est si important.
Ces déclarations contre la Cour d'appel fédérale de Californie s'ajoutent aux critiques contre le juge Robart qui a interrompu l'application du décret et aux insultes contre le juge Curiel pendant la campagne électorale. Cela provoque un certain émoi aux États-Unis, chez les démocrates comme chez les républicains, attachés à leur constitution basée sur la séparation des pouvoirs. Un président n'est pas censé commenter une décision de justice, cela ne se fait pas, encore moins un processus en cours. Beaucoup estiment que ces déclarations inappropriées risquent d'avoir l'effet inverse du but recherché.
Anne-Marie Capomaccio pour RFI. 6 employés du Comité international de la Croix-Rouge ont été tués en Afghanistan et 2 manquent à l'appel. Le groupe État islamique serait derrière l'attaque. Les employés étaient dans le nord du pays pour apporter de la nourriture et des soins après une tempête de neige meurtrière. On écoute le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, Frédéric Joly.
Effectivement, le CICR confirme que 6 employés de l'organisation ont été tués et 2 autres collègues sont portés disparus. Pour le moment, c'est le choc au niveau de l'institution. Aujourd'hui, la temporalité, c'est le sort des 2 collègues qui sont portés disparus. Et de toute façon, le CICR s'abstiendra de toute considération en lien avec une dimension politique liée à cet incident-là. Pour le moment, l'urgence, c'est de savoir ce qui est arrivé à aux 2 collègues portés disparus. Pleurer les morts, les 6 collègues tués dans cette tragédie. Et puis ensuite voir comment au niveau opérationnel nous allons pouvoir continuer à apporter une réponse humanitaire aux gens qui en ont besoin et qui vivent dans cette région-là. Malheureusement, l'environnement sécuritaire en Afghanistan demeure très volatile dans beaucoup d'endroits, mais néanmoins les programmes du CICR, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit au profit des populations villageoises, que ce soit dans la diffusion du droit humanitaire, dans la formation au droit humanitaire des combattants, eh bien ce sont des programmes qui se déroulent au quotidien en Afghanistan, mais oui, En termes de sécurité, c'est un pays et certaines régions qui sont extrêmement difficiles.
Frédéric Joly du CCR au micro de RFI. On jette un coup d'œil à la météo avant de passer au sport avec Jean-Noël. C'est très chaud au sud du pays où la vague de chaleur est bien installée. Adélaïde, aujourd'hui, on s'attend à 41 degrés, Melbourne 37, Hobart 26, Canberra 36, Wollongong 28 degrés, Sydney 29, Newcastle 27, Brisbane 30, à Cairns et Darwin 31 degrés et à Perth 20 degrés. On rappelle les grands titres de ce jeudi 9 février. Le Parti travailliste refuse de donner son support au projet de loi du gouvernement sur les services de garde. En France, le Canard enchaîné a fait de nouvelles révélations dans l'affaire Pénélope Fillon. Et en Afghanistan, 6 employés du Comité international de la Croix-Rouge ont été tués et 2 manquent à l'appel.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench